Bonjour messieurs, dames. Donc je m'appelle Gaël Pagrimaud et je vais tâcher de vous présenter WSGI, alias Whisky pour les intimes. Donc je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis l'un des membres fondateurs de l'AFPI. Voilà, et merci, applaudissez pas trop, je suis timide. Donc, merci. Donc voilà, je fais du Python depuis plein d'années maintenant, 4 ou 5 ans je pense. Et donc, bon voilà, allez c'est parti. Donc je vais vous présenter ça en deux parties. Je vais commencer par vous présenter le concept. Et ensuite une implémentation qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Ian Beeking, qui est, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un peu un petit génie qui a fait énormément de choses, comme Nose, Pylons, des choses comme ça. Voilà. Alors, pourquoi le WSGI? Donc, dans le web, dans le milieu du web et dans Python plus globalement, il y a énormément d'applications qui sont écrites. Et avant, il n'y avait pas vraiment de standard. C'est-à-dire qu'on pouvait très difficilement les faire cohabiter. Donc, voilà, la solution, c'était d'écrire une norme. Donc, les gens de Python ont écrit la PEP 333. Qui donc décrit la norme WSGI que je vais vous présenter. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une norme qui vise à décrire le système de publication, le processus de publication d'une application web. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Web server gateway interface. Alors, la composition. Ça se découpe donc en trois parties. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc il y a une partie applicative, application, serveur et monde du milieu. Alors, le serveur, que je ne détaille pas. Vous n'avez pas de chance. Alors, voilà, je ne sais pas pourquoi il fait des trucs comme ça. Donc, vous avez énormément de serveurs WSGI qui implémentent la norme, donc. Vous avez Past Deploy, par exemple, qui est donc une bibliothèque de Past, dont je parlerai tout à l'heure, qui implémente plusieurs serveurs déjà. Vous pouvez aussi publier vos applications avec mode Python et Flup, qui est un module qui permet de faire du fast CGI et de cohabiter avec WSGI. Alors, la partie applicative. Donc c'est le corps du processus, c'est ce qui va, c'est votre application, donc votre partie métier ou la publication de pages web, tout bêtement. Donc c'est là que vous allez comprendre le type d'application. Donc Django par exemple respecte la norme WSGI, plus ou moins, on verra. J'ai déjà eu cette conversation avec certaines personnes. Pylons donc, qui est une application 100% WSGI, puisque ça a été donc développé par Ian Beeking, la personne dont je vous parlais tout à l'heure. Et Zop3, qui depuis une petite année maintenant, je crois, implémente la norme WSGI et permet de publier les applications en utilisant donc tous les serveurs précédemment cités. Etc. Donc il y en a un gros paquet. Donc voici un exemple d'application. Donc vous voyez que c'est très simple, hein. C'est une toute petite application de type Hello World. Donc vous avez une méthode toute simple qui s'appelle ici application, qui prend deux paramètres, environ et start response. Donc environ, on le verra plus tard, je le décris par la suite, est un dictionnaire qui contient tout un tas de valeurs que vous pouvez utiliser dans votre application. Et start response est ce qu'on appelle en Python un callable, c'est-à-dire soit une méthode, soit une fonction, soit une méthode de classe qui doit répondre, qui doit donc prendre deux paramètres. Vous voyez le premier qui va être le code de retour de votre requête HTTP et ensuite une liste de paramètres qui sont les headers que vous renvoyez avec votre requête HTTP. Et votre application doit retourner le corps de votre page web, donc ici un petit document web tout simple qui retourne Hello. Alors ensuite, donc la variable environ, donc le premier paramètre de l'application. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un simple dictionnaire, donc un dictionnaire Python tout bête, hein, qui contient clé et valeur. Et ça contient l'environnement pour une requête, c'est-à-dire qu'il va évoluer à chaque requête. Donc votre application prend ça en paramètre et est capable ensuite de traiter selon le chemin, l'URL, etc. Vous avez tous ces types de paramètres. Donc justement, qu'est-ce que ça contient? Ça contient donc toutes les variables HTTP classiques que vous devez connaître si vous faites du HTTP. Bon, tout le monde connaît ça a priori si vous avez touché un peu le web. Donc par exemple le HTTP host qui va être l'IP du serveur où se trouve votre application. Il y en a tout un paquet, il y a script name, passinfo. Donc passinfo c'est la suite, en fait le chemin qu'il y a après le nom de domaine dans une URL. Un tas de choses comme ça. Et vous avez ensuite des valeurs spécifiques à la norme WGI que je détaille par la suite. Vous avez WGI version, c'est tout bêtement le numéro de version WGI. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais bon, par la suite, ça pourra évoluer. Vous avez le URL schème, donc ça vous dit tout bêtement si c'est du HTTP ou du HTTPS. Il n'y a pas d'autre choix possible, on ne fait pas du web avec du FTP, par exemple. Vous avez ensuite le WGI input. Donc ça, c'est un file system, enfin, non, un descripteur de fichiers. Donc je mets que c'est un flux d'entrée, donc c'est tout bêtement quelque chose qui a une méthode read. Et vous pouvez le lire. Et cela contient ce qui a été envoyé par le client. Donc par votre navigateur web, tout bêtement. Hein. Ça contient donc, c'est ce qui va vous permettre de construire le dictionnaire environ, en fin de compte. Et c'est ce qui contient aussi les cookies, par exemple, des choses comme ça. Et vous avez un WGI erreur. Donc ça, c'est le moyen que les gens qui ont écrit à la norme ont trouvé pour normaliser la gestion des erreurs, en fait, la sortie des erreurs. C'est-à-dire que dans votre application, vous avez des. Il y a des erreurs qui se produisent, hein, personne ne code parfaitement. Et vous pouvez donc les loguer dans. C'est pareil, c'est un fichier donc, dans lequel vous pouvez écrire. Et vous allez loguer vos erreurs ici et on verra que on peut ensuite les afficher si on le désire. Vous avez un WGI multithread, donc qui est un booléen tout bêtement et qui dit si votre application est multithreadée ou non. Idem pour le multiprocess. Vous avez un WGI.runOnce, donc qui est vrai si l'application n'est exécutée qu'une fois. Donc en gros, c'est si vous voulez tester votre requête, vous avez le moyen en général de lancer une requête pour tester par exemple le résultat que ça va donner. Ou c'est aussi vrai pour le CGI, puisque vous pouvez faire du WGI en CGI. Et dans ce cas-là, le script n'est exécuté qu'une fois, votre application n'est exécutée qu'une fois. Alors ensuite, ce que j'appelle le monde du milieu, middleware en anglais, c'est ce que vous liriez plus souvent. Donc ça, c'est un moyen de faire un pont entre le serveur et votre application, en fin de compte. Donc c'est ce que je mets ici, ça interagit à la fois avec l'application et à la fois avec le serveur. C'est pour ça que ça s'appelle le milieu. Alors. Ça peut donc modifier le comportement d'une application. Ça permet aussi de faire cohabiter des applications et de modifier le résultat envoyé au serveur. Je vais vous expliquer par un exemple. Donc vous voyez ici, j'ai fait un petit exemple d'un composant middleware. Donc c'est quelque chose qui gère les erreurs, justement. Ça fait des notifications d'erreurs de l'application. Donc vous voyez, un middleware, c'est en général une classe Python qui prend en initialisation un paramètre qui est votre application. Et vous avez un callable qui ressemble à votre application. Vous voyez que ça prend les mêmes arguments, environ et start response. Et là, qu'est-ce que ça fait tout bêtement? Bon, donc on l'initialise avec notre application et ensuite, au moment où on l'appelle, on va tester. Que ça fonctionne bien, donc on rajoute un try except à l'exécution de l'application, et s'il y a une exception, on pourra alors faire n'importe quoi. Donc là, j'ai rien mis, mais bon, on pourra envisager un envoi de mail, par exemple, ou d'envoyer un résultat différent au client. Par exemple, le résultat de l'erreur qui s'est produite. Voilà. Donc en gros, je vous ai résumé tout ce qui était la norme. Maintenant, je vais vous présenter PAST, donc qui est une implémentation de cette norme. Donc PAST, c'est une suite de librairies donc écrite par Ian Beeking, qui regroupe des serveurs, un squelette d'application et des composants du milieu réutilisables. Donc il y en a tout un paquet. Vous avez par exemple le moyen d'avoir des proxys, des choses comme ça. Ah ouais, mais non, attends. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? C'est basé sur un fichier de configuration de type ini, donc, que vous devez connaître aussi, qui est le standard sous Windows. Et donc voilà, donc c'est configuré en section, organisé en section plutôt, et c'est un enchaînement de sections. Donc en fait, en fin de compte, dans votre fichier de configuration, vous allez décrire le cheminement de votre application. C'est-à-dire, vous allez décrire le serveur, les middleware éventuels dans lesquels il y passe, et votre application. Et donc le but de cette librairie, c'était de faire quelque chose de configurable par un administrateur système et non pas par un développeur. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de code Python du tout à l'intérieur, ça permet à n'importe qui de l'éditer relativement facilement sans avoir à connaître Python. Alors, ça fonctionne. PAST donc utilise des factories. Qu'est-ce que c'est qu'un factory? C'est quelque chose qui définit un point d'entrée. Donc je ne sais pas si vous connaissez les entry points dans les eggs. Donc c'est quelque chose qui permet de dire je ne sais pas trop comment expliquer ça. Ouais bon ça vous permet de définir un point d'entrée, hein, tout bêtement en fin de compte. C'est aussi bête que ça. Donc en fait vous associez une chaîne de caractères à un module Python et une fonction qui contient ce module. Donc le factory renvoie l'application. C'est un constructeur d'application. Mais cette fois, on va pouvoir la configurer à l'intérieur. Donc voilà un exemple. Donc tout bêtement, ça renvoyait qu'ici, ça renvoie un error handler. Donc c'est tout ce que j'avais défini avant. Hein. Donc vous avez mon factory qui s'appelle mon application. Vous avez deux dictionnaires, global config et local config, qui sont. Qui va être tout bêtement la section que vous avez définie dans votre fichier ini, votre fichier de configuration PAST. Et ensuite, donc je définis une app, donc une application, qui elle va renvoyer le middleware que j'ai défini tout à l'heure, qui prend donc en paramètre une application que j'ai définie aussi tout à l'heure. Et donc dans la configuration, on pourrait mettre par exemple le mail où va être envoyée la notification d'erreur. Et ça retourne donc l'application, un callable qui prend un argument environ et start response. Voilà, donc ici vous comprenez peut-être un peu plus pourquoi on appelle les middleware, puisque vous voyez que ça définit, donc ça prend l'application et ça l'englobe afin de la contrôler ou de la modifier. Alors voici un exemple de fichier de configuration donc que j'ai appelé deploy.ini. Et vous voyez qu'il est très simple, il définit tout bêtement une application et un serveur. Donc ce que j'appelais tout à l'heure entry point, c'est la chaîne que vous voyez en premier, les use. Donc vous voyez que je pointe vers quelque chose. Ici, je pointe vers un egg qui s'appelle mon package. Et avec un entry point, mon application, qui est donc le factory que j'ai défini tout à l'heure. Et j'ai mis mon mail magnifique, fp.org. Si vous en voulez un, c'est possible, je ne les vends pas cher. Et vous voyez que le titre de la section, c'est app:.main. Donc ça, c'est ce qui va servir à PAST. En fait, PAST va chercher quelque chose qui s'appelle 2.main. Donc, au moment où il va initialiser votre application, il va chercher un serveur de point main qui va associer à une application app de point main. Vous allez voir qu'on peut complexifier la chose énormément après. Donc, vous voyez que c'est relativement compréhensible. La section serveur, par exemple, on pointe vers un serveur, il y a un host, un port, n'importe qui peut le modifier, on n'a pas besoin de connaître du Python pour faire ça. Et ensuite, vous pouvez lancer votre application avec la commande pasteur serve deploy ini. Donc, serve, ça va desservir votre application. Et le tour est joué. Alors, maintenant, j'ai essayé de définir un peu tous les types de factories qu'on peut avoir. Donc, vous avez APP qui va vous définir une application. Donc, c'est le cas que je vous ai mis tout à l'heure. Vous voyez que on a tout bêtement un use qui pointe vers un entry point. Vous avez donc un filter qui, lui, va vous permettre de configurer des mondes du milieu, des middleware. Vous voyez qu'ici, je définis un filter error handler qui va utiliser mon package error handler, donc le middleware que j'ai défini tout à l'heure. Et ensuite, on a par exemple un pipeline qui, lui, va pouvoir vous permettre de faire un enchaînement monde du milieu application. Vous voyez, ici, je définis un pipeline de point main, donc qui va devenir l'application principale de mon fichier de configuration. Et il a un paramètre pipeline qui prend donc un middleware et une application. Vous pouvez ainsi configurer et imbriquer vos middleware et vos applications. Alors, ici, ça se complexifie un petit peu. Donc, vous avez aussi un factory de type composite qui lui permet d'associer de multiples applications. Vous voyez ici, bon, je ne connais pas trop les cas d'utilisation, mais il y en a un qui est très parlant, qui est URL map, qui vous permet donc, selon le chemin que le client appelle, de pointer vers une application différente. Vous voyez, on utilise toujours pareil un entry point qui pointe vers past URL map. Et ensuite, on met autant de chemin qu'on veut. Et à chaque requête, plutôt, le composite, enfin l'URL map va analyser le chemin et en fonction du chemin que le client appelle, il va rediriger vers telle ou telle application. Et mon application et mon application 2 doivent être des noms de sections. Voilà. Et ensuite, vous avez un factory de type serveur, donc qui vous permet, lui, de choisir le serveur que vous allez utiliser. Vous voyez qu'ici, j'en ai pris un différent. Tout à l'heure, c'était past dièse HTTP. Et ici, j'en prends tout bêtement un différent qui s'appelle past script CherryP, qui est donc le serveur du framework CherryP qui est dupliqué dans past et qui permet de desservir des applications. Voilà, donc je dis ensuite que past utilise les sections comme point d'entrée. Donc c'est ce que je vous disais, ça correspond à voilà, il faut toujours que vous ayez un main, un app main et un serveur main. Ok. Et voilà, donc j'en ai fini. Donc pour en savoir plus, donc vous pouvez consulter la PEP 333. Vous avez aussi un site qui est très bien, qui est wgi.org, qui regroupe tous les applications, tous les middleware, tous les serveurs que vous pouvez utiliser. Et vous avez le site de Pasteur, qui est Python Past, donc qui est la documentation de toutes les librairies Past. Voilà. Pour finir, je voulais remercier l'AFPI d'avoir organisé ces magnifiques journées. Et Olivier Grisel, qui a fait la CSS des slides S5 que j'ai fait. Voilà.
Alors bonjour, moi j'ai trois questions. La première, c'est est-ce qu'on est obligé d'utiliser des eggs pour faire du WSGI avec past?
Oui, tout à fait, puisque ça utilise les entry points. Et sans egg, tu ne peux pas avoir d'entry point.
D'accord, donc à chaque fois dans les fichiers de conf, quand on voit egg de point, c'est parce que peut-être qu'un jour on pourra mettre autre chose, mais pour l'instant, non.
Oui, alors ça, je sais qu'il y a des... Moi, j'utilise toujours ça, donc je n'ai pas détaillé. Mais il y a d'autres moyens de définir des points d'entrée dans les fichiers de configuration.
D'accord.
Mais je crois que c'est plus ou moins toujours basé sur des entry points, ou alors c'est des chemins vers un callable, c'est-à-dire que tu vas mettre ton paquet point, ta méthode, par exemple.
D'accord, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de reconstruire un egg à chaque fois qu'on veut pouvoir modifier l'application.
Bah,
D'accord.
de toute façon, tu n'es pas obligé. Enfin, si tu connais un petit peu les eggs, tu peux les définir en develop mode. Et bon, t'as pas besoin. Une
D'accord.
fois que ton entry point est défini une fois, bon, ça c'est
Ok.
pris en compte.
Alors ma deuxième question, c'est de tous les éléments de configuration que tu as montré là, qui étaient en type .ini, ça c'est, que je comprenne bien, c'est spécifique en fait à Paste,
Oui,
et
tout à fait.
c'est, enfin les autres implémentations de WSGI n'utilisent pas forcément les mêmes concepts de pipeline, etc. Ou c'est
Non, pas du tout. En fait, WSGI, c'est ce que j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire
D'accord.
le fait d'avoir une méthode qui prend deux paramètres en argument. Et Past,
C'est tout le reste.
c'est
Ok.
vraiment spécifique à Past le fait d'avoir des configurations en point.
D'accord. Et la dernière question, c'est dans le petit exemple que tu as montré au début. Donc, tu retournes l'ensemble du document d'un seul coup en faisant un return. Et donc, question un chouïa technique. Est-ce qu'on peut faire de l'envoi partiel, soit
Oui,
chunké,
tout à
soit.
fait. En fait, bah dans Past, par exemple, il y a un module qui s'appelle fill app, donc qui définit une application WSGI qui va renvoyer un fichier et lui renvoie, enfin gère bien justement le fait de découper ça. Et ça renvoie normalement d'ailleurs, c'est supposé renvoyer un iterable. Moi, j'ai
D'accord.
renvoyé une chaîne, mais normalement c'est itérable et donc bah, tu peux renvoyer un générateur, par exemple, qui
D'accord,
lui
tout
va
à fait.
gérer la mémoire ou des choses comme ça.
Ok, merci beaucoup.
Merci.